Bonjour Magali.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Avec à la une ce matin, les Occidentaux qui appuient sur le bouton Swift.
Plusieurs banques russes vont être exclues de la plateforme. De nouvelles sanctions pourraient être adoptées. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont rendez-vous aujourd'hui à 18h. Sur le terrain, Kiev tremble mais ne tombe pas. La capitale résiste. Un couvre-feu est de rigueur jusqu'à demain. Nous serons en ligne avec l'une de nos correspondantes. Elle se trouve à 20 km de la ville. Là aussi, les frappes russes continuent. Et alors que la Russie appelle à élargir son offensive, des milliers d'Ukrainiens fuient vers l'ouest. La Pologne dit avoir accueilli déjà plus de 115 000 réfugiés. L'élan de solidarité est immense à travers l'Europe. Marche au flambeau, défilé de rue, plusieurs manifestations se sont tenues en France, hier notamment à Mont-de-Marsan. Reportage.
Et nos invités ce matin pour parler des contours de la guerre en Ukraine, la journaliste Isabelle Lasserre, spécialiste de diplomatie au Figaro, ancienne correspondante à Moscou. Nous recevrons également général Vincent Desportes, ancien directeur de l'école de guerre et professeur de stratégie à Sciences Po et HEC.
Malgré une actualité ukrainienne qui rend difficilement audible la campagne présidentielle, Valérie Pécresse était en Normandie ces derniers jours. La candidate LR s'est posée en candidate défenseuse du monde libre. Rien ne se perd, tout se transforme. Nous irons visiter une fausse maison entièrement composée de matériaux recyclés. C'est à voir au Salon de l'Agriculture. Et puis, les joueurs du 15 de France poursuivent leur objectif. Leur rêve de grand chelem est désormais à portée de main après une victoire hier face à l'Écosse.
France Inter.
Les Occidentaux ont donc sorti l'arme atomique financière. USA, Canada, Royaume-Uni et Européens vont exclure un grand nombre de banques russes du réseau interbancaire SWIFT. Ils veulent sanctionner également la Banque centrale russe. Un troisième train de sanctions très puissant annoncé dans la nuit. Angélique Boin.
Toutes les banques russes déjà sanctionnées par la communauté internationale sont concernées et la liste va s'allonger dans les prochains jours. SWIFT, c'est le principal système interbancaire mondial. Cette action empêchera donc ces établissements d'effectuer la plupart de leurs transactions. Exportations et importations russes seront donc bloquées. Seul un nombre limité de banques seront exemptées, précise un diplomate haut placé. Celles qui sont utiles aux Européens pour acheter le gaz russe, dont certains États comme l'Allemagne ne peuvent pas se passer. La mesure est habile, commente un expert, d'autant qu'elle se double d'un gel des transactions financières de la Banque centrale russe. Cela empêchera Moscou d'y recourir pour contrer l'impact de nos sanctions ou pour financer le conflit en Ukraine, précise la Commission européenne, qui dit vouloir à la fois bloquer l'essentiel de l'économie russe, tout en empêchant Vladimir Poutine d'utiliser son trésor de guerre. Bruxelles, Angélique Boin, France Inter.
Les Européens veulent aussi interdire aux oligarques russes d'utiliser leurs actifs financiers sur leur marché. Des mesures annoncées par la présidente de la Commission qui doivent être affinées et juridiquement endossées par les ministres européens des Affaires étrangères réunis en conseil d'urgence en visioconférence en fin d'après-midi. Par un tweet de son premier ministre, l'Ukraine s'est dite reconnaissante de ses décisions. L'Ukraine résiste face à l'offensive désormais élargie de Moscou. Kiev, un champ de bataille, la capitale s'est métamorphosée. Seuls les combattants ukrainiens peuvent circuler dans les rues. Les combats ont continué cette nuit. Vanessa Descoureau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'une de nos envoyées spéciales sur le terrain. Vous n'avez pas pu entrer dans la capitale du fait du couvre-feu instauré hier et en vigueur jusqu'à demain matin. Vous êtes donc à 20 km au sud de la ville. Le jour s'est levé. De votre côté aussi, les frappes se poursuivent.
Oui, il y a une heure encore, à peine, alors que le jour était déjà pourtant bien levé. On entendait encore ce grognement sourd des frappes aériennes et depuis c'est beaucoup plus calme. Mais c'est comme si on vivait dans un moment suspendu en quelque sorte, parce qu'ici aussi, en périphérie, le couvre-feu est élargi jusqu'à demain matin. Aucune sortie n'est autorisée, n'est tolérée, sauf pour aller se protéger dans les abris bien sûr. Mais ici à la campagne, là où nous sommes, il n'y a pas d'abri. Les habitants restent terrés dans leurs appartements, volets fermés, un minimum de lumière allumée quand la nuit est tombée. Ici, la sécurité est assurée par des volontaires de la défense territoriale avec leur brassard jaune autour de l'épaule. Il serait aujourd'hui 37 000 un peu partout dans le pays. Ce sont des jeunes, mais pas toujours, chargés de faire respecter ce long couvre-feu pour surveiller qui tente d'entrer dans la ville et éviter ainsi les saboteurs. Parce que c'est pour cette raison, d'ailleurs, que le couvre-feu va durer une journée entière. C'est pour nettoyer la ville, comme disent les Ukrainiens, la nettoyer des éléments pro-russes infiltrés.
Vanessa Descoureau avec les moyens techniques de Marc Garneves. On l'a appris il y a quelques minutes, information donc à prendre avec précaution. L'armée russe aurait fait une percée à Kharkiv, la deuxième ville du pays située dans le nord-est. Selon le gouverneur régional, des véhicules russes sont entrés dans le centre-ville. Le ministère russe de la Défense affirme pour sa part avoir encerclé deux grandes villes du sud, Kherson et Berdiansk. Ceux qui le peuvent partent. L'ONU estime à 116 000 le nombre de réfugiés à avoir fui vers les pays voisins comme la Hongrie, la Moldavie, la Slovaquie et la Roumanie. Dans une interview accordée à Ouest France, le Premier ministre polonais affirme que son pays est prêt à accueillir des dizaines, des centaines de milliers, voire des millions de personnes s'il le faut. Les autres, ceux qui restent, vivent sous la menace permanente et ces bombardements incessants des populations pour qui l'aide humanitaire, Marion Ferrer, est en train de s'organiser.
La Croix-Rouge internationale a été la première à intervenir. Elle est déjà en Ukraine avec 600 humanitaires déployés dans le pays depuis le conflit en 2014. Ils opèrent principalement dans l'Est, zone sous contrôle des séparatistes russes. Leurs premières opérations d'aide ont débuté très rapidement près de Donetsk avec la distribution d'eau potable. Florian Seriex, porte-parole du comité international de la Croix-Rouge.
C'est un endroit où on était déjà opérationnel et donc on a pu faire parvenir un peu plus de 16 000 litres d'eau qui était vraiment ce premier besoin d'urgence. Et donc forcément, c'est des besoins qui risquent de s'accroître dans les jours qui viennent. Et maintenant, c'est continuer à analyser, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les autres zones vers lesquelles on pourra potentiellement aussi aller en fonction de ces fameux besoins.
La Croix-Rouge française, elle attend le feu vert du Quai d'Orsay. Son intervention devrait se faire aux frontières de l'Ukraine, en Pologne, Roumanie ou Moldavie. Une aide apportée aux populations qui fuient les bombardements. D'autres ONG sont aussi en train de se réorganiser comme Médecins sans frontières. C'est plus compliqué en revanche pour Médecins du Monde qui ne peut s'appuyer que sur ses équipes espagnoles et allemandes. Leurs volontaires français sont déjà sur d'autres missions en Russie. Difficile d'opérer sur les deux terrains pour raisons diplomatiques.
Et la solidarité va bien au-delà. Des manifestations avaient lieu un peu partout dans le monde. Hier, en soutien donc aux Ukrainiens, dans les Landes, notamment en France, à Mont-de-Marsan, à l'appel d'une dizaine d'associations, environ 300 personnes sont venues, ce qui a beaucoup aimé une Landaise vivant là-bas d'origine ukrainienne, Tristan Barraud.
Derrière ses lunettes de soleil, Svitlana a du mal à sécher ses larmes. Elle n'est d'ailleurs pas venue seule. Avec elle, son mari et sa belle-fille.
Ça fait chaud au cœur. Je suis remercie tout le monde qui fait ça pour l'Ukraine. On sait qu'on ne peut pas stopper la guerre, mais quand même.
Sa famille vit au sud de l'Ukraine. Là-bas, Internet marche encore. Ce qui lui permet de rester en contact depuis les Landes avec notamment sa mère et sa fille.
Les gens attendent les bombardements. Ma mère peut rester seule dans la maison. Ma fille, avec son petit bébé, elle est peur. Elle m'appelait. Pleurant, c'est la chose que je t'ai dit, que je t'aime, il a croché, il est parti. Et...
Juste à côté, sa belle-fille.
Son beau-frère et son gendre peuvent être mobilisés à tout moment, donc c'est vrai que c'est compliqué de se dire que d'un coup, du jour au lendemain, on n'a rien demandé à personne, on peut se retrouver mobilisé, aller faire la guerre.
Au milieu de la place, une banderole, non à la guerre en Ukraine, juste devant Philippe.
Je suis très malheureux, c'est des liens affectifs quoi, qui se forgent quand on voit à la télé tout ce qui se passe. C'est proche de nous quand même. Faut pas croire, hein.
Notre seule arme, c'est donc se rassembler pour Noël.
Si on s'unit tous, on aura un rapport de force. Je pense qu'il faut bien montrer que nous, on est solidaires du peuple ukrainien, du peuple qui est en train de mourir.
Dans la foule aussi, une pancarte avec écrit dessus « Poutine est un assassin ».
Et Tristan Barraud de France Bleu Gascogne.
Et une actualité ukrainienne qui éclipserait presque l'autre grande actualité du moment en France, c'est la campagne présidentielle.
Pendant deux jours, Valérie Pécresse était en Normandie et la candidate de la droite n'a pas hésité à profiter du symbole de ces terres de débarquement pour se poser en défenseuse du monde libre et donc à marquer sa différence avec Marine Le Pen et Éric Zemmour. Anne Souhaitemont.
Bonjour.
À deux pas des plages du débarquement, Valérie Pécresse à la rencontre de passants inquiets par la guerre en Ukraine.
Je suis plutôt du genre optimiste, mais là...
Juste après avoir déposé une gerbe à Courseul, où le général de Gaulle a débarqué dans une France libérée en 1944 pour envoyer un premier message.
La France doit être le fer de lance de la résistance et du combat pour la démocratie.
Valérie Pécresse cogne fort Éric Zemmour et Marine Le Pen.
Il y a des candidats qui choisissent de défendre Vladimir Poutine. Eh bien moi je choisis l'Ukraine. Quand on dit qu'il faut un Vladimir Poutine à la France, comme l'a fait Éric Zemmour, ou quand on dit que Vladimir Poutine fait en Russie la politique qu'on aimerait faire en France, comme Marine Le Pen, eh bien je crois qu'on est discrédité pour devenir président de la République française.
Une attaque en règle, réitérée quelques heures plus tard lors d'un meeting à Caen.
Non, le président de la République française ne peut pas être sous influence d'un dictateur étranger. Moi, je défends une France indépendante et souveraine. Je veux la France debout, pas la France à genoux.
Offensive calculée contre Éric Zemmour, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, sur lesquels Valérie Pécresse espère refaire son retard pour pouvoir passer la barre du premier tour.
Le reportage d'Anne Souhaitemont. La plus grande ferme de France reprend ses quartiers au parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris depuis hier. Et pour la troisième fois, un hall tout entier est dédié aux produits biosourcés Agri-Expo, où trône une maison un peu particulière. Kathleen Comte.
Rien ne se perd, tout se transforme. L'adage a du sens ici, puisque cette fausse maison a pour but de montrer tout ce qu'on peut faire avec des produits agricoles normalement destinés à la poubelle. Flavie Carotte est exposante, elle nous fait faire le tour du propriétaire.
Alors là, ce sont des assiettes à base de coquilles d'huîtres qui sont broyées puis agglomérées de la même façon.
Des coquilles d'huîtres également utilisées pour fabriquer des pavés drainants pour construire une terrasse par exemple. Autre produit agricole valorisé, les drèches de brasserie.
C'est des restes de céréales qu'on a utilisés pour faire la bière qui sont ici broyées et ensuite agglomérées pour pouvoir faire soit des planches à découper ou alors des couverts, fourchettes, couteaux, cuillères, assiettes et des verres.
Chaises de bureau en lin, panneaux isolants à base de riz de Camargue ou encore accessoires en cuir de poisson.
Des pochettes, des bracelets ou des chaussures par exemple. Et donc le cuir de poisson, donc on réutilise la peau qui normalement, pareil, est jetée, qui est très résistante et qui est plus résistante que du cuir de vache traditionnel.
Des idées qui témoignent de l'implication des agriculteurs dans l'écologie.
L'image des agriculteurs, elle est parfois un peu dénigrée par rapport à l'utilisation des intrants, des pesticides, etc. C'est important de montrer que c'est aussi un secteur qui essaye de faire des efforts avec la transition écologique et qui participe justement à cette transition écologique.
Tout ce qui est exposé dans la maison biosourcée du Salon de l'Agriculture est déjà disponible dans le commerce.
Et à 8h12 sur France Inter, c'est l'heure des sports.
Et bonjour Laetitia Bernard.
Bonjour.
Les Écossais ne sont plus la bête noire des Bleus dans le tournoi des Six Nations.
Et non, ça y est, une victoire hier à Édimbourg. Victoire 36-17. 6 essais inscrits. Plus que jamais, les Français sont en lice pour le remporter, ce tournoi, et réaliser le grand chelem. Et pour vivre ce match sur France Inter, il y avait hier dans les tribunes du stade de Murrayfield une journaliste que certains ont peut-être entendu chanter. Qui ne saute pas n'est pas français. Fanny Lechevestrier.
Irrésistible, imprenables, ils attirent tous les superlatifs. Il faut dire qu'un à un, ils font tomber tous les vieux records, comme hier encore. 8 ans que le 15 de France n'avait pas gagné à Murrayfield dans le tournoi. 6 essais plus tard, on passe à autre chose. Non, la seule chose qui ne change pas, à écouter les joueurs après chaque match, comme hier le magistral Cyril Baye, c'est le plaisir.
C'est l'état d'esprit qu'on a, c'est qu'on travaille tous ensemble, et ce plaisir aussi qu'on prend sur le terrain, de jouer ensemble, qui a fait notre force.
Et la clé du succès est sans doute à chercher dans cette notion de groupe. L'ancien international, aujourd'hui entraîneur adjoint des Bleus, William Servat, on est en tout cas convaincu.
Il n'y a pas de formule miracle, mais c'est, si on peut dire, une bande de copains. Ce n'est pas qu'une image, et c'est la réalité aujourd'hui de notre équipe, avec une vraie solidarité entre eux. C'est ce qui donne aussi les moyens de trouver des ressources. Sur les moments où on peut avoir des doutes, quand on a de l'interrelation avec les mecs qui sont autour de nous, on arrive à créer quelque chose.
Une notion de groupe érigée en principe de vie depuis 2 ans par le sélectionneur Fabien Galthié, entretenue par des échanges basés sur la cohésion avec des personnalités variées, comme cette semaine, Francis Cabrel. Cela peut surprendre, mais c'est peut-être cela qui mènera le 15 de France vers le Grand Chelem, tant désiré depuis 12 ans.
Prochain rendez-vous pour les Bleus dans 2 semaines face au Pays de Galles. Les Bleus du rugby fauteuil, sacré champion d'Europe pour la première fois de leur histoire. Hier à Paris, devant leur public, ils ont battu les champions paralympiques anglais sur le score de 44 à 43. En football, encore une performance signée Kylian Mbappé. Un doublé lors de la victoire 3-1 sur Saint-Etienne. Et voilà, l'attaquant est le 2e meilleur buteur de l'histoire de son club, à égalité avec Zlatan Ibrahimovic et derrière Edinson Cavani.
Et face à l'actualité, l'invasion militaire russe en Ukraine, réaction du monde du sport.
Et elles sont nombreuses ces réactions, mais citons celle de la Fédération norvégienne de ski, qui interdit la participation des athlètes russes aux Coupes du Monde de ski de fond, ski alpin et biathlon prévues sur son sol au mois de mars. En France, le club de handball de Nantes demande, lui, le report de son match d'Euroleague prévu mardi face à une équipe russe. Nantes ne veut pas accueillir les Moscovites du Tchekhov dans le contexte actuel. Écoutez le président du club, Gaël Pelletier.
Il ne faut pas que le sport soit aussi un outil de communication pour une politique qu'on ne cautionne pas. C'est un peu le risque et dans le cas présent, ça nous semblait important de montrer notre soutien face à une agression de l'Ukraine par la Russie. Donc, bien sûr que les sportifs russes et l'équipe russe que nous devions rencontrer, ils sont pour rien. Il faut bien montrer aussi une certaine solidarité. Et on ne peut pas faire abstraction de tout sous le seul prétexte que l'on fait du sport.
Le club de Nantes attend désormais un retour de la Fédération européenne de handball.
Laetitia Bernard.
Dans le journal de Magali Homo. Merci à toutes les deux. Le temps de ce dimanche.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Avec du beau dans ses grandes largesses, Jean-Michel Golinski.
Une belle journée en perspective avec tout de même deux secteurs où le ciel sera plus mitigé. Le premier à l'ouest de la Bretagne aux Pyrénées et le second des Alpes du Sud à la Côte d'Azur, gagnant en fin de journée vers le golfe du Lion. Notez que sous ces nuages, les précipitations, s'il y en a, seront très faibles. Au lever du jour, il faisait 0-4 degrés dans l'intérieur jusqu'à -6 sur le sud de la Bourgogne. En revanche, près des côtes, il fait plus doux, avec 5 en moyenne, de Dunkerque à Camaret, du sud de la pointe bretonne à la Gironde et du golfe du Lion à la côte d'Azur, jusqu'à 9 sur la Corse et 14 sur le Pays Basque. Cet après-midi, le maximum sera de 17 degrés pour le Bordelais, plus généralement 15 à 16 du sud de la Garonne à la basse vallée du Rhône, 13 sur la Corse, balayé par un vent de secteur nord sensible, et 12 degrés en moyenne sur les deux tiers nord du pays.
Jean-Michel Golinski, météo France.